Au cours de la prochaine demi-heure, la dernière demi-heure de l'émission pour aujourd'hui, on va se pencher sur un potin de la vie des gens riches et célèbres. En fait, vous l'avez peut-être entendu, c'est sorti aujourd'hui, le couple le plus riche du monde divorce après 25 ans de mariage. Jeff Bezos, PDG d'Amazon, est l'homme le plus riche selon Forbes, qui évalue sa fortune à 137 milliards de dollars. Qui de mieux que Maître Anne-France Goldwater pour nous parler de ce genre de divorce à la milliardaire. Maître Goldwater, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, 137 milliards, on divise ça en deux puis chacun rentre chez soi?
Ça devrait être à peu près ça, mais bien entendu, plus que les gens sont fortunés, plus que ça peut être compliqué sur le plan fiscal et économique de partager ses avoirs. Et certes, c'est pas l'argent qui manque dans ce couple, donc ça risque d'être assez facile pour eux de trouver un terrain d'entente.
Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi les lois diffèrent entre les États-Unis et ici? En quoi ça peut être complètement différent de comment ça se passerait ici?
Ben déjà aux États-Unis, dans certains États comme Washington, là où ils sont résidents et domiciliés, comme dans certaines provinces ici, les couples mariés sont déjà copropriétaires de tous leurs avoirs, tous les avoirs qu'ils ont accumulés pendant leur mariage. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas entre les couples mariés au Québec. Et ça, c'est une nuance que les gens oublient souvent, que même les couples mariés ici n'ont pas beaucoup de droits. Donc, la femme mariée ici commence avec moins de droits que sa sœur, disons, à Nouvelle-Écosse ou sa sœur à Washington, disons. Alors, et bien entendu, même si le couple vivait dans un autre des États aux États-Unis où ils sont pas automatiquement copropriétaires, le droit au partage des biens existe pour tous les biens existants pendant le mariage. C'est pas nécessairement 50-50, mais certainement après un mariage de si longue durée, ça arriverait à être à peu près ça. Parce que quand ils se sont connus, ces deux personnes-là, ni l'un ni l'autre n'avaient quelque fortune que ce soit.
Ça, c'est clair.
La fortune était bâtie pendant l'union.
Absolument.
Alors, c'est ça. Alors, donc, parce qu'aux États-Unis, quand vous lisez les nouvelles en anglais, ils font une distinction qui n'existe pas au Québec. Ils disent, Washington, c'est un des rares États, il y a juste 9 États dans toute l'Union des États-Unis où les couples sont genre copropriétaires. Et moi, ça m'a mis à rire, à pleurer, parce que dans tous les autres États, les autres 41 États, même si vous n'êtes pas 100% copropriétaire, vous avez droit à peu près la moitié de la valeur, plus ou moins.
Automatiquement.
Une petite union d'un an, deux ans, peut-être ça ne sera pas 50-50, mais bien entendu, après 25 ans, on peut s'attendre que ça soit 50-50. Lorsqu'ici, au Québec, on a encore le phénomène, même pour les couples mariés, où s'ils signent un contrat de mariage au début de l'union devant notaire, ils peuvent choisir être en séparation de biens. Mm-hmm. Et là, la femme se trouve vraiment lésée. Si à la fin de l'union, monsieur devient fortuné, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est souvent ça, et elle va juste avoir droit à une partie en valeur, pas titre, de la résidence familiale, les meubles, l'auto, REER, ce qu'on appelle le patrimoine familial. Et bien entendu, si vous êtes conjoint de fait, vous êtes ensemble même pendant 50 ans avec 5 enfants, vous avez droit à absolument zéro et vous pouvez vous retrouver être foutu à la porte de votre propre maison, vous et les enfants.
C'est incroyable.
Ça, c'est notre Québec. Mais personne ne veut le faire. Personne ne veut changer les lois. Le Québec adore gaspiller des fonds publics sur des commissions. Hein? Mmh. On se penche sur tellement de commissions que ça fait mal au dos, mais il n'y a jamais un résultat.
Bon.
J'avais prévenu le professeur Alleroy dans le temps de ne tomber pas dans le piège séduisant d'accepter du fric du gouvernement pour se pencher sur une commission, parce que ça ne va rien donner. C'est sûr, le rapport serait mis sur une tablette.
Pour vous, il faut agir, c'est ça.
À côté de tous les autres rapports sur le droit de la famille depuis Belle Lorette.
Bon, Maître Goldwater, évidemment, aujourd'hui, communiqué de M. Bezos sur Twitter, qui dit, je vais traduire de façon libre, là, on veut que les gens soient conscients qu'il y a un développement dans nos vies, nos amis, notre famille, savent qu'après une longue période d'amour et une séparation à l'essai, on a décidé de divorcer, mais continue de nous aimer beaucoup, etc. Ça, c'est, est-ce qu'on pourrait dire en anglais « damage control »
j'ai senti ça un peu plus profondément que ça. Peut-être je suis pas assez cynique, même si je suis une avocate qui compte 38 ans d'expérience, mais j'ai senti de vraies émotions et un désir profond de transmettre un message à leurs proches et même au grand public. C'est pas vrai parce qu'on se sépare, qu'on s'aime plus, qu'on apprécie les années qu'on a passées ensemble, qu'on est encore des amis, on est encore des parents, on a encore des projets ensemble et tout ça. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'on n'est plus dans le même lit que, you know, tout tombe à l'eau.
Que la famille n'existe plus, en effet.
Il y a une grande maturité, grande sagesse. Oui. Dans ce message, et j'aimerais que des gens le lisent et collent le message à leur frigo. C'est pas parce que une relation est en échec aujourd'hui qu'il faut laisser effriter tous les bons souvenirs des derniers 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Je lis la fin du message où il dit « Nous avons eu une si magnifique vie ensemble comme couple marié. Nous entrevoyons un futur extraordinaire devant nous comme parents, amis, partenaires dans toutes sortes de projets et comme individus qui veulent continuer à vivre leur vie, etc. » Donc, effectivement, je prends votre parole. Si vous dites que vous le ressentez comme quelque chose de sincère, on va dire que ça l'est parce que vous en avez tellement fait, tellement vu que je me disais, est-ce que c'est une façon pour lui de calmer le jeu, d'entrer de jeu? Bon, alors, sur ce, je voulais vous demander, Jeannette Bertrand a déjà dit, et je pense qu'elle n'a pas tort, l'argent, c'est plus compliqué que le sexe dans le couple.
Bien entendu, parce que l'argent reflète, souvent on projette sur l'argent beaucoup plus de nos valeurs, nos sentiments, nos déceptions de la vie que sur juste l'acte sexuel, que souvent veut pas arrive et finit, que ça soit pour les pauvres dans 5 minutes ou pour les gens plus stimulés après 1 heure ou 2, ça finit là. Hein? Ça finit, on est contente, on se donne la main, on passe à autre chose. Mais l'argent, on dirait que l'argent, est-ce que j'ai réussi comme être humain si j'ai pas assez d'argent à la banque? Est-ce que je suis un échec? Vous comprenez? On attache d'autres choses que je trouve ça étonnant à quel point on peut attacher autant d'importance à quelque chose qui n'est pas un objet qui existe indépendamment de nous. C'est pas comme un verre d'eau ou un Ferrari ou une bicyclette ou une fleur. Une fleur est belle qu'on n'existe pas. Elle existe, n'est-ce pas? Mais un billet ou un sou ou un 25 cents, ça n'a que de valeur si l'ensemble, la communauté des personnes qui s'en servent y attache une valeur, n'est-ce pas?
En effet.
Normalement, l'argent devrait que représenter l'outil qui nous permet de vivre en société. Alors, si tout le monde est bien en société, l'argent devrait être une belle chose, mais pas plus important qu'une fleur.
Voilà, mais l'argent devrait aussi être sujet de clarté entre deux personnes, j'imagine. Comme quelqu'un m'a déjà dit, la meilleure façon de bien vivre ensemble, c'est de savoir ce qui arriverait si on se séparait. Dites-moi une chose, est-ce que ça vous est arrivé, Maître Goldwater, parce qu'on connaît certaines de vos causes célèbres, ne serait-ce que Eric et Lola. Je sais que vous ne pouvez pas en parler. Ne vous inquiétez pas, on s'en va pas là. Mais
ils sont des amis aujourd'hui.
Bon,
c'est la bonne nouvelle que je peux annoncer.
Ah ben ça, c'est une
très belle relation depuis, même si personne ne les connaît. Moi, je suis très fière des deux que quand ils nous ont laissé tomber les avocats, ils ont eu la sagesse de retisser des liens d'amitié. Il faut en être fier de ce fait.
Ben, pour les enfants, c'est toujours la meilleure chose. C'est ce qui peut arriver de mieux pour les enfants. Est-ce que ça vous est arrivé au fil de votre carrière, Maître Goldwater, de refuser de défendre quelqu'un ou de laisser une cause parce que vous vous dites « Non, vraiment, cet être est abject, je ne peux plus défendre sa cause. »
Ce que j'ai déjà refusé à faire, il y a plus qu'une reprise, et ça vient de m'arriver même récemment avec beaucoup de tristesse, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, beaucoup, beaucoup comme client autrement, c'est je ne veux pas, à cause de mon talent d'avocat ou mon talent intellectuel, me retrouver instrumentalisé pour perpétuer une bataille entre papa et maman ou mari et femme. Ça, c'est pas moi. C'est une chose défendre un client quand il y a une injustice ou défendre un client pour obtenir justice. C'est une autre chose lorsque on sert de vous comme un soldat que pour être dans le champ de bataille. Moi, j'haïs ça. Ouais. Ça, c'est pas moi. Et c'est souvent pas évident tout de suite quand on a un nouvelle cliente qu'on peut être mis dans ce rôle. Et il m'est arrivé carrément que des gens arrivent à la porte à la première consultation. On est venu te consulter, Maître Godoy, tu es un vrai requin ou quelque chose. Je dis, hey, vous vous êtes trompé là. Oui. Moi, je suis comme la fleur qui bouge dans le vent, dans le champ.
Permettez-moi quand même de douter un tout petit peu dans le sens que je connais vos forces aussi, bien sûr.
Je connais vos forces aussi. Fais la blague.
Écoutez,
je fais la blague.
Deux questions en terminant. J'espère qu'on aura le temps de passer à travers les deux. Tout d'abord, qu'est-ce que ces divorces-là, toutes les causes que vous avez défendues, quand vous regardez derrière vous, qu'est-ce que ça vous a appris sur la nature humaine?
Ça m'a appris qu'on est très peu équipé pour prendre des bonnes décisions lorsque la tristesse ou la colère vient interférer avec le processus d'analyse. Parce qu'on pense que ce sont deux choses distinctes. Quand on veut analyser notre situation, on pense qu'on fait un travail cognitif, intellectuel. Et puis quand on pense que lorsqu'on est fâché ou triste, que c'est une émotion et que ce sont deux choses distinctes. Ça, c'est pas vrai. Grave erreur. Mm-hmm. J'ai appris à force de mon expérience et aussi de la science que notre vécu momentané, les émotions du moment, si c'est ça qui nous dirige, veut pas, et que la partie qu'on appelle analytique du cerveau essaie de rendre ça logique et rationnel, nos émotions. Et c'est insoluble, ça ne se fait pas. Mm-hmm. Alors, il faudrait que les gens, pour moi, trouvent une autre façon. J'ai même dit en blague au barreau quand je présentais un papier sur une conférence sur la représentation des enfants. J'ai dit, et c'était juste une demi-blague, on devrait avoir autant le droit de prendre des décisions qu'on représente l'enfant de 4 ans ou 14 ans lorsqu'on représente l'enfant de 40 ans ou 44 ans. Mm-hmm, parce que vraiment, il n'y a pas une différence.
C'est vrai.
L'émotion
n'a pas d'âge. Eh bien, écoutez, en quelques secondes, parce que là, vraiment, il va falloir qu'on se laisse. Anne-France Goldwater, que devrait-on éviter de faire si on veut que notre divorce se passe bien? Au Québec.
Ce qu'on devrait essayer de faire, et avant de prendre chaque décision, d'asseoir, prendre une feuille de papier, mettez le nom de votre conjoint là en tête de papier, essayez d'écrire qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent. Or, forcez-vous à écrire une feuille où vous écrivez les pensées de votre partenaire, parce que vous connaissez mieux les forces et faiblesses de votre partenaire. Et si vous êtes capable de faire cet exercice, pratiquez à le relire pour que vous ne perdez pas l'empathie pour votre partenaire, pour qu'au moment que vous téléphoniez à votre avocat, que vous ne dites pas des bêtises à l'avocat, allez le saisir, ouais. Allez le massacrer.
Oui,
allez
oui.
Vous comprenez? Mais il faut
totalement.
Se forcer.
Se mettre dans la peau de l'autre, quel sage conseil.
Exactement.
On va se laisser là-dessus.
Ça, maître... c'est le devoir que je suggère à tous et à toutes.
Excellent. Merci beaucoup de cette sagesse.
Merci
maître Anne-France Goldwater, avocate spécialisée en droit de la famille.